Donc, comme garant toi. Et effectivement, il y a toujours ce bâton de fer, cette massue, qui s'est fait faire, ou qui s'est fait lui-même quand il travaillait chez un forgeron. Bon, ce que je voudrais dire ici, alors là, je vais mettre les petits dans le plat, c'est que les sociétés traditionnelles, les sociétés rurales traditionnelles, avaient besoin de ces types de récits, de Jean de l'Ours. Elles en avaient besoin. J'ai écrit un jour un article qui s'appelait « Les épreuves du bébé ». Et dans cet article, je regroupais un certain nombre de notations sur des épreuves qu'on avait dans l'Europe traditionnelle, y compris médiévale, qu'on avait imposées à des bébés masculins. Il s'agissait uniquement, c'est des bébés, c'est pas encore des mâles dominants, c'était uniquement de faire en sorte qu'ils soient forts. Et ce qui était intéressant dans ce dossier-là, c'est que les épreuves imposées à des bébés, du style les mettre à côté du feu, pour qu'ils résistent au feu, les plonger dans l'eau, quelques secondes, pour qu'ils ressortent, et on les ressort avant qu'ils soient asphyxiés. Voilà. On a fait ça. On a fait ça dans l'Europe rurale traditionnelle. Et c'est tout à fait intéressant, parce que ça rejoint des choses de la mythologie grecque. C'est exactement, par exemple, ce qui est arrivé au héros Achille. Sa mère, soit l'a passé au feu, soit l'a mis dans un fleuve, le Styx. Voilà. Mais chez les Grecs anciens, il s'agissait de faire des guerriers. Évidemment, Achille. Non. Dans l'Europe traditionnelle, il s'agit de faire des hommes forts, parce qu'on en a besoin dans la ferme. Le gars qui fera des moissons, c'est généralement un homme. Le gars qui coupe le bois, c'est généralement un homme. Voilà. Il faut des hommes costauds pour la vie, pour la vie rurale. Et donc, un conte comme Jean de l'Ours, il campe un héros de force. Voilà. Si on veut des contes où il y a des femmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pas Jean de l'Ours, mais il y en a beaucoup.
Il y avait une question juste comme ça, de la compagnie L'Entre-deux. Est-ce que l'inversion de la distorsion vers le haut ou vers le bas implique un changement symbolique ou pas?
Qu'est-ce que vous appelez symbolique?
Ah, bah alors là, il faudrait que je lui demande. Bon,
non, mais attendez. Alors, on va revenir à un autre dossier qui est fondamental. Dans toute histoire initiatique, le personnage qui subit l'initiation passe d'un état inférieur à un état supérieur, qui est l'état de citoyen, etc. C'est le processus, c'est le but de tout processus initiatique. Voilà. Donc oui, on peut dire ça, que c'est un changement symbolique. Nous, maintenant, on est tous des ultra-rationalistes, tous. Et donc, pour nous, on peut appeler ça symbolique. Mais dans les sociétés avant nous, ce n'est pas du tout symbolique. C'est tout à fait réel. Il y a une différence ontologique, une différence de nature entre le jeune individu qui n'est pas encore initié et le même individu, trois semaines après, qui est initié. Il y a un changement de nature entre les deux. De même qu'il y a un changement, une différence de nature entre hommes et femmes. Bien sûr. Ils ne pensaient pas en termes de logique. Ils ne pensaient pas que les femmes et les hommes, c'est les deux, c'est les mâles et femelles d'Homo sapiens. Pas du tout. Ils voyaient les femmes comme des êtres autres. Enfin, et réciproquement. Quand on lit les trucs d'éleveurs, chez les lapons, des choses comme ça, on nous dit bien, un éleveur était beaucoup plus proche de ses bêtes que de sa femme. Sa femme, c'est un être différent, très différent, ontologiquement différent. Maintenant, on ne pense plus ça du tout. Hein? On dit, l'espèce Homo sapiens sapiens comprend des mâles et des femelles. C'est pas ontologique, c'est zoologique.
Mmh.
Ok. Hein? C'est pas. Bah non. Monsieur.
Étant donné que la signification de la différence homme-femme à l'époque et aujourd'hui est fondamentalement différente, comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut les raconter? Comment est-ce qu'elles peuvent être comprises? Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu possible ou est-ce qu'il y a une réinterprétation qui doit être faite pour transmettre ces histoires?
Je vous suis donc complètement. Oui. Alors le malentendu, il est certain dans ce que vous avez envoyé, hein. Vous avez envoyé sur les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, et moi non plus, qui veulent interdire les contes populaires parce que ça transporte des valeurs masculines, patriarcales, je ne sais pas trop quoi encore. Et comme vous dites, il y a malentendu. Il y a malentendu. Et vous avez raison. Je pense que de nos jours, un conteur qui va raconter Jean de l'Ours, par exemple, doit mettre les choses au point. Autrement dit, on ne peut pas le raconter de façon comme ça. Il faut peut-être le présenter et le mettre en contexte, peut-être. Ouais. Je pense qu'il faut faire gaffe de nos jours, puisque j'ai appris par vous qu'il y avait ces gens qui veulent interdire le conte populaire. Bon, voilà, donc il faut faire attention. Ouais. Il faut faire attention, il faut prendre des précautions. Pour pas tomber dans le collimateur de ces gens-là. Quoi.
Il y a des adaptations possibles pour certains codes.
Hein?
Il y a des adaptations possibles
aujourd'hui. Parce que si vous avez raison.
Voilà.
Vous avez raison. Vous êtes conteuse vous-même?
Pas du tout.
En tout cas, un conteur ou une conteuse peuvent parfaitement adapter. Ils sont libres. Ils sont libres dans leur tête. Ils peuvent modifier des éléments du conte, maintenant, bien sûr, oui.
Par exemple, spontanément, la Belle au bois dormant.
Oui.
Elle dort, elle est en attente, elle est passive, il y a tout ce...
Oui.
Il y a le musée qui... Voilà, et ça choque beaucoup les gens. Aujourd'hui, les féminins...
Oui.
Donc, comment... Voilà.
Je pense, une fois de plus, c'est pas peut-être une question d'adaptation, c'est une question d'éclairage. Moi, je pense que cet état-là, on pourra en reparler longuement, c'est l'objet du séminaire. C'est-à-dire aussi, c'est qu'est-ce qu'on met comme objectif derrière la narration.
Oui.
Hein, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que cet état de passivité, elle existe en miroir dans notre société aussi. Voilà, le viol existe toujours. Ne racontons plus les contes qui n'existent pas, vous allez voir que ça n'en supprimerait pas beaucoup. La virilité de Jean de l'Ours, elle existe toujours. Donc, est-ce que le conte est un lieu qui adoube cette réalité, ou est-ce que c'est un questionnement? Cette réalité. C'est un positionnement du conteur aussi. Est-ce que les contes servent simplement à confirmer les valeurs ou à les interroger?
Oui.
Hein, voilà. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut arriver.
Tout à fait.
À être acteur.
Voilà, à titre de témoignage, le jour du 8 mars, j'étais dans un événement donc, sur le féminisme et j'ai eu du mal, il y avait les bouquins et tout ça, et j'ai eu du mal à expliquer. Et j'ai eu du mal à dire comment.
Bon, et il y a des contes autres que Jean de l'Ours ou qui mettent en valeur des femmes. Hein. Pas énormément, mais il y en a, je pense, il y a un type de conte qui s'appelle « La femme à la recherche de son mari ». Alors, c'est un peu le conte de Héros et Psyché. Hein. C'est Héros et Psyché. Donc, il y avait un couple, disons, et puis pour une raison X, la femme disparaît. L'homme disparaît. Il est loin. Il est parti. Il y a eu disjonction horizontale, évidemment. Il est parti. Il n'est plus là. La femme part à sa recherche. Et donc, la femme est l'héroïne du conte. Bah oui.
Mais il y a des quantités. Hein. Il y a des héroïnes masquées, des fois, dans les contes. Moi, je pense à la fille, la femme aux cheveux d'or, par exemple, la belle aux cheveux d'or. Mais en fin de compte, quand on fait l'analyse du conte, on s'aperçoit que c'est la belle qui, depuis le début, manipule complètement l'histoire. Voilà. Mais on a l'impression que le héros, c'est un petit gars qui se promène, en fin de compte, lui, il est complètement passif. On se retrouve dans la
réalité. Très intéressant, oui. Il y a intérêt à mettre ça en valeur.
Bien sûr.
Ouais.
Voilà. Moi, je vous propose peut-être qu'on fasse. Oui, peut-être qu'il y a encore quelques questions. Vous allez prendre.
Ce conte type Jean de l'Ours, le sujet aujourd'hui, considérée comme un conte d'initiation masculine, en fait, à la virilité. Mais finalement, cette virilité dans ce type de conte, ça consiste surtout dans de la force musculaire. C'est pas la ruse, c'est ce qu'on peut trouver. C'est pas intellectuel, quoi. Je veux dire, ce sont des contes d'initiation à la virilité musculaire, finalement.
Oui, vous avez raison. Pour l'essentiel, c'est ça. Mais il y a quand même des éléments qui mettent en valeur. Il n'est pas bête, son ours. Il s'est fait lui-même, il a été élève d'un forgeron, il s'est fait lui-même sa barre de fer. Donc, il a une connaissance technique. D'autre part, lorsqu'il est dans la maison où surgit un être bizarroïde, là, il est plus malin que ses compagnons qui se sont fait rosser. Et lui, il le surveille dans l'œil et quand il voit qu'il va être attaqué, il peut attaquer. Donc, il n'est pas idiot. Hein? Comment ? En son sens, il est honnête, oui. Ses compagnons sont des paradigmes de la non-honnêteté, de la malhonnêteté. Ils se sont attribués le meurtre d'un dragon qu'ils n'avaient pas accompli. Donc, oui, inversement, est honnête. Hein ? Ah, bah, bien sûr ! Ah, bah, ce sont des traîtres, ce sont des menteurs, ce sont.
Alors,
oui.
Une question.
Il y a Mathéo, enfin celui qui voudrait prendre la parole pour vous poser sa question, puisqu'il parle que la masculinité présente chez Jean de Lourdes et de ses compères est également mise à mal par la couardise de ses compagnons. Donc, il aimerait pouvoir échanger un peu sur sa question.
Oh, oui.
Alors, on lui donne la parole, peut-être.
Ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, en fait,
on va l'entendre.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Mathéo.
Ouais.
Pour lui répondre, il vaut mieux que vous soyez là. Et il ne va pas vous voir. Je pense qu'on va le.
Il faut arrêter son micro.
Ouais,
oui, tu nous aides là au niveau technique.
On parlait tout à l'heure justement de l'hypermasculinité. Alors, c'est un terme très à la mode en ce moment. C'est vrai qu'on a des héros qui sont très forts, qui sont, on peut même dire qu'ils se la pètent un peu, hein, quand même, ils se prennent pour les rois du monde. Après, il y a des versions qui sont très intéressantes, et moi, c'est surtout celle-là que je mets en avant. C'est justement au moment de descendre sous terre. Jean de Lourdes demande d'abord à ses compagnons de descendre, ils sont morts de trouille. Il y en a un qui, à peine rentré dans le puits, il demande à ressortir. Le deuxième descend un peu plus bas, mais c'est guère mieux. Et moi, ce que j'apprécie justement quand je raconte cette histoire-là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de très masculin quand on raconte avec la force. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que ça ne fait pas tout. Et on a évoqué donc la vieille femme qui apparaît dans l'histoire. Alors, elle n'apparaît pas comme étant le lutin ou le démon qui vient perturber l'équilibre des trois là, dans leur château. Mais elle apparaît dans le fond du tunnel comme étant la vieille femme qui file à côté du feu. Donc, je pense que dans plusieurs versions, on retrouve ce motif-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est justement Jean de Lourdes, cette espèce d'archétype de la masculinité qui descend dans le souterrain et qui va être aidée par une vieille femme qui va lui dire ce qu'elle a à faire. Et c'est en ça où je trouve qu'en fait, ces versions-là sont intéressantes pour nous aujourd'hui. C'est qu'effectivement, enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de porter en tout cas, c'est que la masculinité ne fait pas tout et ne permet pas de régler tous les problèmes de ce monde, quoi. Et je trouve qu'on néglige un petit peu parfois, quand on raconte l'histoire, cette vieille femme qui est dans le fond du souterrain, parce qu'à mon avis, elle a un rôle intéressant dans l'élucidation de cette merveille. Voilà.
Ok, je vous remercie. Ok. Oui, je pense que c'est une version de Jean de Lourdes particulière, celle-là, où la femme qui apparaît là joue un rôle particulier. C'est une version particulière. Hein? Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les couards, les deux compagnons qui sont des couards, dans tous les processus d'initiation, eh bien, il y a à côté ceux qui ne réussissent pas. Ceux qui ne réussissent pas. Toujours. Dans Sparte de l'Antiquité, une ville grecque de l'Antiquité, pour être initié, il fallait accomplir toute une très dure éducation, très dure, avec des exercices, avec des épreuves, etc. Et bien, il y en avait qui n'étaient pas le plus. Qui n'y arrivaient pas. Et ces gens étaient tellement nombreux qu'ils formaient une catégorie sociale dans Sparte. On les appelle les Thesanpes, ceux qui ont tremblé. Hein? Voilà, ça c'est pour Sparte. Et il y a d'autres exemples de ça dans d'autres sociétés.
Donc, peut-être sur la question précédente,
c'est des... Anne Marchand qui précise qu'il est très risqué d'adapter trop selon le public, en parlant du conteur et de la manière dont il peut adapter. Je suis conteuse et je ne modifie pratiquement jamais le conte populaire, même si certains le trouvent sexiste, licencieux, etc. Comme le dit justement Bernard, fort justement Bernard, il ne faut surtout pas conter politiquement correct ou féministement correct, mais expliquer, mettre dans le contexte de culture, de lieu, d'époque. Alors, elle précise par rapport à la vieille femme, attention, une vieille femme, donc ménopausée, n'a jamais le même rôle dans les contes qu'une jeune femme en âge de procréer.
Oui. Exact. Oui.
Voilà.
Monsieur ?
Est-ce qu'on peut, voilà, dans cette histoire-là, une question, hein, comme une espèce d'éducation morale à la vérité, avec l'archétype de l'homme, son parcours initiatique qui doit être réussi, et par opposition un petit peu à la mauvaise virilité, d'une certaine manière, ou virilité qui est celle de ses compagnies qui est mise en échec.
Oui.
Cette espèce de morale. Voilà la bonne virilité, la mauvaise virilité.
Oui. Oui, bah c'est ce que, un peu ce que je viens de dire à Sparte. Hein. Oui, les Thesanpes, c'est des hommes, bah oui, mais ils n'ont pas réussi les épreuves. Donc, ils sont dévalorisés.
Mais avec cette dimension morale, cette question-là, est-ce qu'il y a cette. Parce qu'à un moment donné, on parlait d'adaptation morale qui avait pour but de mettre des
fortifier
les
oui.
Là, ça serait la version.
Je ne parle pas de morale dans tout ça, moi. Je ne parle pas de morale. Tout ça, c'est des nécessités sociales. Hein? Ça correspond à des fonctionnements sociaux. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Sauf dans le cas, mais bien sûr, on caractérise les deux couards qui n'ont pas osé descendre, oui. Qui ont coupé la corde, etc. Là, ils sont caractérisés comme mauvais, comme ceux qui ont échoué. Hein?
La nécessité sociale, c'est-à-dire c'est un constat.
C'est à peu près ça. Oui, mais enfin, le constat, il est transposé. Dans le cas de Jean de l'Ours, je disais, la société a besoin d'hommes forts. L'homme fort, Jean de l'Ours, n'existe pas dans la société. Il n'y a pas de fils d'ours capable de remuer des pierres colossales. Hein? Mais on transpose, le mythe transpose.
Mais je crois qu'il y a toujours cette...
On n'a pas d'effet de transformation du monde.
Mmh. Je crois que les contes merveilleux sont toujours pareils. On est dans un champ de transmission émotionnelle et dans un effet miroir.
Voilà.
C'est-à-dire comment on reçoit des images qui nous ramènent à nous-mêmes. Hein? On va prendre un petit moment tout à l'heure, si vous voulez, on en parlera. Moi, j'ai des expériences avec des ados en train de raconter ce conte. Pour eux, c'est un effet miroir total. Ils retrouvent complètement ce qu'ils ressentent en tant qu'adolescents dans ce conte-là. C'est vraiment un espace dans lequel ils sont complètement en relation, même aujourd'hui.
Oui.
Même si on n'est plus tout à fait dans ce domaine-là. Hein, on est dans un champ initiatique qui n'est pas que la force physique, c'est aussi la remise en question de la virilité. C'est-à-dire aussi aujourd'hui, dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je crois que c'est vraiment le côté contextuel qu'il faut revoir aussi Là, il y a vraiment à interroger le travail des conteurs aujourd'hui par rapport à tous ces récits et au travail qui se fait aussi de détérioration de ces récits par une volonté d'adaptation. On perd énormément de force à vouloir des fois trop adapter.
Il faut se demander, aussi quel est l'impact d'un conte comme ça sur un
auditoire féminin. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de femmes qui racontent. Je crois que c'est un public d'ailleurs. On aura un témoignage là-dessus.
Juste une question de curiosité. Qu'est-ce que ça pourrait être comme. Qu'est-ce que ça induirait, par exemple, Jeanne de l'eau? Est-ce que ça serait
vraiment une représentation
qui ferait perdre tout le sens?
J'habite entre autres dans une commune à côté de Paris qui s'appelle Pantin. Et le maire avait décidé en début d'année de l'appeler Pantine. Bon, ça m'émeut à peu près autant que ça. Non, Jeanne de l'Ours, non, ça marche.
Non, je crois qu'on perdrait complètement la fonction même du récit. Mm-hmm. Voilà. Et on ferait l'inverse de ce qu'on veut faire. Oui. Moi, je vous propose. Oui, peut-être dernière question. Je vous propose
une petite pause.
C'était juste pas oublier qu'on a tous en nous une part masculine et féminine.
Bien sûr.
C'est pas parce que le héros est masculin que ça ne peut pas toucher les femmes.
Évidemment. On aura juste comme Jeanne de l'Ours. Évidemment.
Soulever des montagnes. Et ça s'est vu. Donc, je ne crois pas qu'il faut forcément féminiser ou masculiniser.
Ah non, mais il ne s'agit pas de féminiser, il s'agit que le modèle.
C'est symbole. Et aujourd'hui, on oublie ça, que c'est du langage symbolique. Il faut arrêter de dire que non, il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Au contraire, le monde est
ouais, si vous voulez.
La masculinité. Donc, on a le monde en nous. On a tout ça.
Je vous rappelle que biologiquement, un homme, c'est une femme transformée. Biologiquement. Dans une question de chromosome, un homme, il a XY, une femme, elle a 2X. Donc, on a remplacé un X pour faire un homme. D'accord ? Un homme, c'est une femme transformée.
Il y a toujours une confusion entre le sexe anatomique et psychique.
Oui.
Donc, ça n'a rien à voir.
Oui. Ah oui, je suis d'accord avec vous.
Les cohérences techniques proposent des identifications.
Oui.
Je serais du côté.
Mais alors là, si on revient à la société traditionnelle.
Ça reste à discuter d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais en plus, il n'est pas interdit, effectivement, il n'est pas dit dans les contes qu'une femme ne peut pas s'identifier à l'identité masculine. Est-ce qu'il y a des interdits?
Non, vous avez raison.
Oui, c'est là où il y a la confusion.
Oui.
Et je crois que c'est ce que vous venez de dire.
Enfin, oh, d'abord, je pense qu'une femme, par masculine ou pas, une femme. D'une paysanne, d'une société traditionnelle qui entendait raconter le conte de Jeanne de l'Ours, elle était très contente. Elle était très contente parce qu'on y campait un homme fort et elle a besoin d'hommes forts. Elle a besoin. Elle était très contente. Bon, deuxième chose, vous avez tout à fait raison, il faut distinguer le sexe biologique et le sexe psychique. Mais dans la société traditionnelle, on n'était qu'analysé. Il n'y avait pas de place pour l'homosexualité.
Est-ce qu'il y avait un interdit ou pas?
Un interdit, sûr.
C'est-à-dire que le sexe psychique correspond au sexe.
Forcément. Dans la société traditionnelle, c'était obligatoire. Voilà. Si on laissait un garçon, on devait être un garçon.
Donc là, il devait y avoir de l'interdit.
Oui. C'est la société qui faisait. Ouais. Ils nous mettaient sur des rails à la naissance.
Mais aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. On choisit son sexe.
Oh, maintenant, c'est totalement différent. Oui. Les gens qui sont contre le compte, ils ne voient pas. Ils subissent le changement, mais ils ne le mesurent pas. Oui.
Je pense qu'il y a une question qui est à poser aussi, qui est extrêmement importante, c'est qu'est-ce que les évolutions techniques et technologiques ont favorisé de ce changement? Parce qu'il y a des tâches... moi, dans mes actions arrétiennes, j'ai été chauffeur routier, avec des camions qui n'avaient aucune direction assistée, je ne vous dis pas, là, c'était la force qui était en jeu. Mmh. Aujourd'hui, ça se tourne avec le petit doigt. Donc, n'importe qui peut conduire ce type de véhicule. On vous donne un exemple.
Pour des sociétés de se différencier, ça correspond à des besoins de vie. Effectivement, est-ce qu'il n'y a plus de nécessité vitale?
Non.
On peut faire n'importe quoi.
En ville, bien sûr. Oui. Voilà.
Donc, il y a une nécessité de différencier.
Vous avez raison, oui. Maintenant, les théoriciens du genre accusent beaucoup les Français, entre autres, de continuer à différencier énormément. Mais bon, en fait, je suis d'accord avec vous, ça a énormément changé, énormément. On est libre d'être ce qu'on veut, oui.
Okay. On se fait une petite pause et puis on reprend pour terminer. On finit à quelle heure, je crois, Isabelle, on finit à quelle heure? À quelle heure on a fini?
C'est complètement épopé parce que Julia, Lacan, sa mère animale, etc.
Mais on est sur des motifs. On est sur des motifs.
C'est des motifs tirés. Parce que sinon, là-bas, Julia, c'est évident à fondre. Et je veux dire que les gens s'identifient aussi dans les récits.
Mais n'ayez pas peur de nous renvoyer des questionnements ou des remarques après. Hein, parce que... Le principe, c'est qu'on collectionne.
C'est, ça, c'est vivant. Oui. Je veux dire que les gens ne connaissent pas ça.
Merci à Bernard Sergent parce qu'il nous éclaire vraiment sur, pour moi, ce qui est important dans tout ce que j'ai pu lire de Bernard Sergent depuis très longtemps et les articles, il y a des quantités sur Percé ou autres qu'il faut lire parce qu'ils sont passionnants. Voilà. C'est qu'il nous éclaire vraiment sur l'histoire de ces récits, sur toutes ces relations aux mythes. Et Jean Delourde, pour moi, est vraiment un exemple type de ce type de récits qui ne sont pas des mythes et en même temps qui nous en parlent en permanence. Voilà, hein, c'est ça qui est en jeu. Donc moi, j'ai une vision beaucoup plus, on va dire, fonctionnaliste. Hein, moi, tout mon travail, c'est en gros à quoi sert le conte aujourd'hui, quelle est l'histoire. Et donc Jean Delourde, moi, je l'ai vraiment travaillé un peu dans ce sens-là en me disant, mais comment il est perçu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme réaction quand on raconte Jean Delourde à des grands adolescents? Je vais rester là pour ce matin. Hein, mais, donc, moi, je me suis beaucoup servi d'une version qu'avaient collectée Daniel Fabre et Jean Lacroix dans leur travail sur l'Occitanie. Hein. Donc, c'est une version qu'on a plus ou moins résumée ce matin. Elle est là. Hein. C'est une version où il y a une jeune femme qui se fait enlever par un ours et l'ours est né dans une caverne. Hein, Jean de l'ours, voilà, libéré parce qu'il arrive à pousser la pierre, il va dans la société, il n'arrive pas à s'adapter, d'accord? Donc, pas s'adapter, oui, parce que sa force fait que quelque part, il dégrade tout ce qu'il y a autour, hein, et puis il n'arrive pas à entrer dans le cadre en tant que tel. Donc, on l'envoie chez le forgeron pour s'initier, hein, plus ou moins, il apprend à maîtriser sa force en tous les cas, il apprend à en faire quelque chose de positif, parce qu'il en fait une canne. Et puis, il va rencontrer, alors là, il y a trois figures de la force brute, hein, pour moi, qui sont Torchène, Lance-Roux de Moulin et Lève-Montagne. Hein, donc, trois personnages qui sont là aussi complètement. Ils partent ensemble. Ils vont se retrouver dans un château, la plupart du temps. Et donc, ils s'organisent, comme on l'a dit ce matin. Hein. Il y en a qui vont à la chasse, d'autres qui préparent le repas. Dans cette version, il y a un lutin, bizarrement, qui arrive en pièces détachées. Il tombe en pièces détachées dans la cheminée. Hein, puis quand tout est là, il se rassemble et il agresse tous les gens qui sont là, hein, sauf Jean Delourde qui arrive à le blesser. Donc il s'enfuit, on suit ses traces et on descend dans le fameux puits qui amène dans le monde souterrain. Donc là, il va négocier avec la mère du lutin. Donc peut-être d'où la version qu'on nous a signalée tout à l'heure, hein, parce que là, on a cette fameuse mère du lutin. Voilà, qui lui dit, mais laisse mon fils tranquille, je te donnerai des cadeaux, des trésors. Et donc, il l'amène, mais en allant chercher le trésor, il découvre les trois princesses, hein, qui va donc récupérer, faire monter. Les copains se saisissent au fur et à mesure des biens qui sont remontés. Il fait même monter le trésor, et quand c'est à lui de monter, on coupe, hein, systématiquement, on jette la corde, donc il ne peut pas. Donc là, il va renégocier avec la vieille femme, qui va lui trouver une vieille aigle blanche. Voilà, la vieille aigle blanche qui va le monter sur son dos, mais il faut lui donner de la viande. Hein. Voilà, donc, il y a un sac de viande d'un animal qu'il a tué. Quand elle crie carne, il faut lui donner de la viande. Elle monte, elle monte, elle monte, mais arrivée carrément à la cime, il n'y a plus rien dans le sac. Et donc, pour qu'elle puisse arriver à la cime, il se coupe un morceau de cuisse hein, et lui donne à manger. Donc, on se retrouve à l'extérieur. Souvent, il y a encore, selon les versions, certaines aventures où il faut qu'il se fasse soigner. Il retrouve les amis dans cette version-là, dans une auberge. Hein. Et là, les amis, quand ils le voient arriver, les traîtres, quand ils le voient arriver, ils prennent tous la fuite. Alors là, c'est intéressant ce que vous disiez ce matin, parce que là, par contre, dans cette version, on dit qu'il vécut heureux avec les trois princesses. Ça s'arrête là. Hein, voilà. Donc, on est vraiment dans un espace aussi où on est dans un endroit. Quand on raconte ce conte-là à des ados, ben c'est évident qu'ils ont, pour eux, en grande partie en miroir, ce qu'ils ressentent émotionnellement. Donc, pour moi, c'est quasi initiatique aussi. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que quand on raconte ça à des classes qui sont un peu perturbées, ça les met en apaisement immédiatement. Donc, on se dit, là, il y a déjà une fonction un peu étrange. De médiation directe entre ce conte et les ados. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous connaissez tous les adolescents, je ne sais pas, le village que vous avez. On y est tous passés aussi. Mais souvent, ils se sentent pas finis, comme ils disent. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. Et Jean de Lourdes, c'est un monstre. C'est un moitié homme, moitié animal. Hein, il est vraiment dans l'entre-deux. Là. Donc, cette notion de monstruosité, elle est posée en tant que telle. Et ça, en résonance, ça devient extrêmement important pour eux. Ensuite, trouver la force, s'échapper, faire sortir, partir avec la mer sur le dos. Quoi. C'est rien. Devenir soi-même dans la sauvegarde de sa mère, en tant que telle. Hein. Donc, et ils arrivent dans une société où ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils connaissent ça, les ados. Difficulté d'intégration. D'être rejeté. D'être en permanence bousculé dans leur désir et dans leur envie de faire des choses. Quoi, hein. Voilà. Donc, dans beaucoup de versions, celle de Pierre Pousse était très intéressante, qui a été filmée, voilà, où quelque part, il met l'instituteur comme porteur de la norme. Hein, si vous écoutez bien cette histoire-là, tout est dit en occitan, sauf l'instituteur qui parle en français. Voilà, et il explique qu'il ne peut pas intégrer Jean de Lourdes dans la classe parce qu'il ne respecte pas toutes les normes qui sont données, quoi, en gros. Hein, voilà. Donc, il est tellement marginal, comme le sont beaucoup d'adolescents, on l'amène à essayer de maîtriser sa force. Et on la voit chez le forgeron. Forgeron qui est l'alchimiste par excellence. Hein. Il manipule toutes les matières. Voilà. Et donc, il apprend petit à petit à maîtriser sa force. Ça, c'est pareil, c'est un désir d'arriver à être dans cette maîtrise. Il fait sa fameuse canne, qui est pour moi un emblème de son initiation, en gros. Il part avec cette canne. Voilà. Et il part à la rencontre d'autres forces masculines en tant que telles. Donc le fameux Torchène, si on analyse un peu qui est Torchène, c'est quelqu'un qui détruit la nature pour plaisir. Hein. Il n'en fait rien de ses fagots. Hein. Il arrache, il les tord, il les jette. Voilà. Derrière, on a Lance-Roue de Moulin. Donc si on prend sur le plan médiéval la roue de moulin, c'est quand même un bel emblème de la civilisation en tant que telle. Hein. C'est la maîtrise de la mécanique, c'était... Alors lui, les roues de moulin, il les jette. C'est un lanceur de frisbee, vous savez, avec les roues de moulin. Mais plaisir, pareil, il n'y a pas, d'espace autre que celui-là. Et le dernier, je l'adore, celui-là, dans cette version-là, il n'est pas toujours là, c'est Lève-Montagne. Et alors ça correspond aux ados que j'aime beaucoup, vous savez, qui lèveraient les montagnes, même si ça ne sert à rien. Celui-là, c'est exactement ça, il se lève les montagnes, faire passer les vendangers. Puis il les repose. Toute la journée, il fait ça. Hein, voilà. Donc, si vous regardez bien ces trois figures-là, ces trois figures de l'adolescence, en fait, qui sont en tant que telles. Donc, on a cet effet miroir qui est extrêmement intéressant. Ça dit plus le. Disons qu'on sort de la dimension qu'on a vue ce matin, qui est la relation au mythe, mais on est dans une dimension émotionnelle. Et pour moi, le mythe n'y est pas pour rien dans cette dimension émotionnelle. Ces figures-là, elles sont archétypales et extrêmement puissantes, et elles viennent nourrir ces espaces d'émotion. Et ces espaces de réception, on va dire, en miroir. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Comme font la plupart des adolescents, ils se font une belle bande. Pas de filles, hein, que des garçons, la bande. Et ils vont partir à la recherche de quelque chose et ils vont arriver dans un château. Alors, moi, j'aime bien les mots symboliques aussi dans les contes merveilleux, parce que château, ce n'est pas une maison. Ils ne veulent pas faire famille, ils veulent faire société. C'est encore un autre élément. Voilà. Et dans cet espace de société, ben, ils vont s'organiser. Il y en a qui vont aller chercher la nourriture, d'autres qui vont la préparer. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui me fait tendre l'oreille sur la notion fonction masculine, fonction féminine, traditionnelle. L'intérieur, l'extérieur. Et bizarrement, ceux qui restent à l'extérieur, ben, ils se font en général massacrer par ce petit lutin qui arrive par pièces détachées dans la cheminée. Voilà. Alors ça, moi, j'avais un ami qui était thérapeute, justement, et je lui avais dit, bon, donc là, il m'énerve, j'aimerais bien supprimer. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, surtout pas. Il me dit, parce que quand ton ado est très mal, en fin de compte, il peut sentir son corps complètement défracté. Tu lui proposes un miroir supplémentaire. Garde-le. Hein. Donc, on n'est pas... Voilà, pour dire simplement que toutes ces images, pour moi, sont des images qui ne sont pas gratuites. Elles ne sont peut-être pas pensées intellectuellement, mais dans la pensée analogique du monde paysan, il y avait des images qui venaient comme ça, qui étaient tout à fait justifiées et qui s'appuyaient sûrement sur l'espace mythique en tant que tel, hein, sur tout ce qu'ils pouvaient connaître derrière en tant que tel. Donc là, ben, Jean de l'Ours, bien sûr, le seul initié, le seul qui a une canne, hein, va pouvoir blesser le lutin et le lutin va nous emmener dans le puits. Alors ça, c'est Nicole Belmont qui a fait un très bel article, hein, dans... Enfin, c'est pas un article, c'est un extrait d'ailleurs de son bouquin sur la poétique du conte. Où elle parle du puits, du passage dans l'autre monde, hein, dans le monde autre, donc ce qu'on disait ce matin, l'inversion. Donc les trois premiers vont essayer de descendre, mais il y en a un qui essaye même pas d'ailleurs. Hein. Il a tellement peur qu'il ne veut pas y aller. Voilà, les deux autres essayent, mais ils sont remontés. Hein, ils ne peuvent pas descendre plus loin. Et Jean d'Ours va arriver au fond du puits, bien sûr. Hein. Donc là, pour moi, en tous les cas, il y a une descente en soi aussi, qui est extrêmement intéressante. Ça, c'est Nicole Belmont qui le dit, hein. C'est que c'est aussi cet autre monde, il est en nous. Il n'est pas obligatoirement à l'extérieur. C'est aussi rentrer dans notre propre cheminement intérieur. Voilà. Et il n'y a que l'initié qui peut y aller. Les autres ne sont pas prêts à descendre là-dedans. Hein. Voilà. Et là, il rencontre donc la vieille mère du lutin, hein, et donc les trois princesses. Alors, si on... Pareil, les trois princesses, ça fait souvent un peu... vieille histoire, voilà, mais quelque part, si on le prend sur le côté jungien, c'est aussi trois figures de la féminité qu'il rencontre, de sa propre féminité. Hein, voilà. Et quand qu'est-ce qui se passe? Il va les faire remonter, les copains vont les recevoir, mais pas du tout comme lui a pu le recevoir. Et là j'ai eu un témoignage d'un ado qui me dit, moi ça me rappelle quelque chose, une fois j'ai voulu parler de ce que je ressentais à quelqu'un, je vous dis en résumé, hein, voilà. Et moi, ça m'a blessé parce que personne n'a compris ce que je voulais dire. Et on s'est foutu de ma gueule. Et c'est un peu ça pour moi, cette image-là, le dire en miroir. Hein? Comment? Cette partie des trois princesses qui remontent, voilà, et quelque part qui les dupé, enfin, les princesses, les trésors, voilà. Moi, je le perçois comme sa propre découverte intérieure. Et les ados qui sont dans cette affirmation de leur propre féminité intérieure, garçons, je m'entends, hein, qui peuvent avoir des ressentis de cet ordre-là, s'ils commencent à en parler aux copains, ça peut des fois être très mal pris. C'est ce que je veux dire? Voire pénalisant, voire même violent au niveau de la réaction. Hein, voilà. Donc cette image, pour moi, elle est là. Après, la vieille aigle blanche, pareil, ce n'est pas n'importe quelle aigle blanche, hein, quand on dit bien que c'est une vieille aigle blanche. Voilà, la blancheur, la vieillesse, quelque chose qui va remonter vers la surface. Pour moi, il y a tout le côté des ancêtres de ce qu'il y a derrière, hein, pour remonter. Comment on se rattache à sa propre généalogie aussi, qui peut être tout à fait intéressante. Voilà. Et après, donner de soi pour sortir. Parce que sortir de cette blessure-là, hein, il faut aussi donner un petit peu de soi, un bout de cuisse. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas rien. Et la blessure, elle met du temps à cicatriser. Mais on va jusqu'au bout et on récupère non pas trois princesses au niveau physique, mais on récupère toute la plénitude de sa propre réception de son féminin et son trésor intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, si je prends le conte dans cette dimension-là, j'en fais un conte qui peut devenir un conte de médiation. Voilà. Si vous prendrez d'autres versions, ça sera autre chose. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, je pense que le travail sur le conte merveilleux, ça dépend aussi beaucoup de l'intention qu'on veut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Et on ne va pas choisir la même version en fonction de ce qu'on veut faire de ce compte-là. C'est tout un enjeu aussi, et le compteur sentait très bien. Pierre Pousse, voilà, bon, malheureusement, notre DVD est complètement foutu. Et je ne sais pas s'ils ne veulent pas le rééditer pour l'instant, c'est dommage, parce que c'est vraiment un des rares compteurs traditionnels qui racontait encore une version de Pierre Pousse. Mais moi, cette version-là, je l'ai entendue une fois, on était allé avec comment il s'appelait pas grave, j'oublie tous les noms. On l'avait invité chez nous, d'ailleurs, aussi. Mais il a raconté dans une veillée cabaret, ça dure 20 minutes. Et c'est une version où il s'amuse beaucoup, où il s'implique même dans la version. Parce qu'il y a un personnage qui a une casquette et qui est bossu. Et lui, il était difforme. Hein, voilà. Donc, il se met même dedans. Mais il ne se met pas du côté des bons, il se met du côté des traîtres. Hein, voilà. Il y a tout un jeu, mais c'est vraiment une version très courte. Et puis, après, je l'ai réentendu dans une autre version qui faisait quasi 3 heures. Hein. C'est-à-dire qu'une fois de plus, le conteur n'était pas quelqu'un qui se contentait de dire une version, mais qui jouait dans les versions, qui travaillait en fonction de qui en faisait en face de lui. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi cet espace-là hein, qui est en jeu. Donc, on ne peut pas raconter Jean de Lourdes de la même façon si on raconte en spectacle. Si on veut faire de l'effet en étant uniquement chansonnier, donc mettre tout en résonance sur l'actualité, ou si on veut travailler sur les fondamentaux, ou sur les archétypes, ou si on veut faire travailler en miroir les personnes qui sont en face. Voilà. Donc c'est toute cette matière, pour moi, qui me paraît intéressante, et donc là, on est dans une initiation masculine-masculine. Donc il y a des choses qui sont vraiment à poser au niveau justement de la force, de la virilité, mais en même temps aussi de tout ce qui est nécessaire. En quoi cette force est nécessaire, en fait. Mais en même temps, surtout ce qui est la droiture. Parce que quelque part, les traîtres sont bien mis en exergue pour que, en même temps, surtout ce que la virilité peut être en tant qu'inutile. On tord les chaînes, on relance les roues de moulin, on fait les montagnes. Ça, c'est le prix de la virilité qui est complètement négative. Vous voyez ce que je veux dire ? En même temps, ça remet en question aussi la virilité quand elle n'est plus en accord avec le féminin. On s'est tapé sur la gueule. Hein, voilà. On est vraiment sur tout un questionnement qui se remet en cause et qui, pour moi, n'a rien d'archaïque. On est dans des fonctionnements, des questionnements qui sont complètement d'actualité. Voilà. Donc, pourquoi j'aurais besoin de faire des... comment dire, de changer des images? Pour moi, je n'ai pas besoin de changer les images. Si je le raconte avec une intention et assez de puissance, ça va se mettre en route, ce travail-là. Et c'est là que le conte a sa dimension, pour moi, efficiente. C'est que, justement, il ne dit pas les choses comme des informations. Il les évoque, hein, il ouvre, voilà. Mais quelque part, il vous laisse dans l'interrogation. Donc, ce n'est pas qu'il est... comment dire? Pour moi, tout conte merveilleux n'est pas moral. Ça, c'est ce qu'on entend souvent, mais c'est des contes, la morale, les trucs, les machins, il y en a. Ils ne sont absolument pas moraux, voire même immoraux, très souvent. Mais ils sont des vrais questionneurs de la morale. Et des changements et des mutations qui vont avec. Ce sont des outils dynamiques, en fin de compte. Ce ne sont pas des outils figés. C'est ça qui est extrêmement important à bien entendre. Mais ça veut dire que quelque part, pour comprendre le conte de Jean de Lourdes vraiment dans sa plénitude, ben, il faut relire Bernard Sergent, aller voir un petit peu ce que ça brode derrière de sens, hein, le travail de Lévi-Strauss, hein, voilà, qui a d'ailleurs fait un très bel article sur les grès, Lévi-Strauss aussi. On le retrouve sur Internet d'ailleurs, hein, très intéressant. Voilà. Donc quelque part, bon, il ne faut pas relire les mythologies dans leur globalité, malgré que ce soit pour moi un outil absolument fabuleux pour penser le monde. Hein. Les 4 volumes de la mythologie, c'est quand même quelque chose. Ils sont en libre accès sur Internet maintenant, les 4 volumes. Sur Internet Archive, on les retrouve. Donc, s'il n'y avait pas de sous, parce que ça coûte cher, vous pouvez malgré tout le dire. Voilà, mais ça veut dire quelque part, le conte, pour moi, ce n'est pas qu'un récit, c'est un, comment dire, une construction. C'est un réseau de sens, voilà, qui ne peut pas se saisir uniquement dans l'anecdote. Surtout aujourd'hui, on n'a pas eu les transmissions. On a eu une rupture de transmission en tant que telle sur ce répertoire. Voilà. Donc, ça devient un outil compliqué parce qu'on a une société qui est de plus en plus dans la déculturation, qui a une pensée de plus en plus analytique, qui n'a plus la pensée analogique qui était en relation à ces récits. Et donc, vraiment, il y a un gros travail pour les conteurs d'arriver à adapter l'écoute de cet espace-là. Mais moi, je suis convaincu que c'est un outil d'avenir, c'est pas un outil du passé. J'en suis absolument convaincu. Sinon, je ne serais pas là. Voilà, donc, ce que vous pouvez en dire. Maintenant, il y a sûrement des questions. Alors, on va essayer de s'organiser un petit peu parce que
oui.
Chaque fois, il faut qu'on éteigne les micros. Et qu'on...
Oui, donc, pas trop intervenir après la question, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'interactions.
Oui, je vais laisser un petit temps de pause pour qu'on puisse
voilà. Arriver à manipuler. Donc là, je fais un commentaire hein, de Ludivine Enoch. La perception de toute cette dimension symbolique de Jean de l'Ours et des contes en général ne mérite-t-elle pas un après-spectacle pour en parler avec les ados publics? Je ne suis pas sûre que le public perçoive certains aspects symboliques subtils comme la plénitude du héros qui, vivant heureux avec les princesses, accède ainsi à la plénitude avec sa propre féminité. Point d'interrogation.
Oui. Voilà. Alors, pour moi, c'est évident que ce n'est pas simple. Alors, l'après-spectacle, en général, après un conte merveilleux, c'est dommage, parce que le conte merveilleux met en travail. Voilà. Mais par contre, que le conteur travaille sur, comment dire, enrober l'image pour qu'elle soit perçue au bon endroit, l'image symbolique, ça, par contre, oui. Mais je pense que si le conteur a bien saisi ce qui a été dit, il va trouver le moyen narratif pour faire ressentir l'endroit au juste milieu. Hein? Donc, là, pour moi, il y a aussi comment le conteur ne se limite pas à une simple intuition. C'est-à-dire que, comme on n'a plus les gens qui corrigent aujourd'hui, parce que les transmetteurs ne sont plus là, voilà, je vous avais déjà raconté hein, l'histoire de ce conteur, peut-être pas à vous, mais j'avais vu à l'université de Gênes, ils avaient fait un captage d'un jeune conteur qui voulait apprendre un conte d'un vieux conteur. Et donc, ils ont filmé les phases de transmission. Et on s'aperçoit, en fin de compte, que le vieux conteur, la première fois qu'il le rencontre, il lui dit « raconte ». Puisque tu veux raconter mon conte, raconte. Il lui dit « ça, c'est pas ton conte, c'est mon conte. Travaille. Voilà. » Et pendant 3 ans, il se voit régulièrement. Et chaque fois, il ne lui dit pas « il faut faire ça, il faut faire ça ». Il lui dit « là, ça ne va pas ». C'est tout ce qu'il dit. On est exactement dans la transmission de la musique traditionnelle. On ne veut pas vous dire ce qu'il faut faire. Cherche pourquoi ça ne va pas. Et petit à petit, il arrive comme ça à rectifier. Mais ces gens-là, on ne les a plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, on est bien obligé de faire, nous, un travail analytique pour retrouver le sens, parce qu'on n'a plus les garants de cette transmission. Exactement. Donc, c'est vraiment tout un travail aussi qui, malheureusement, moi, le CMLO, j'avais essayé de... Dans ma tête, c'était faire une structure pour que, quelque part, on n'ait plus besoin de faire de l'analytique. Bon, c'était un grand rêve. Hein. On n'en est pas encore là. Mais c'était qu'on revienne à une transmission naturelle. Ça serait génial. Voilà. Bon, désolé, peut-être été long, mais pour la réponse. Donc, ça va. Oui.
Non, je suis vraiment sur la dernière fois que tu as dit les contes sont pas des récits du passé mais du futur. Moi, je dirais plutôt du présent.
Oui, du présent aussi.
Surtout du présent, parce que le futur n'existe que parce qu'on en parle et le passé n'existe que parce qu'on en parle. Mais ces récits-là qui viennent de loin nous parlent aujourd'hui de ce qui est intemporel, il me semble.
Je vais te dire pourquoi je vois le futur. Parce que quand je vois ce qui se joue aujourd'hui avec le néocontage, pour moi, je ne suis pas convaincu que beaucoup de néocanteurs soient encore dans le conte. Voilà. Et j'espère qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se remette en route aussi sur un vrai travail de perception. Hein? Moi, je vois beaucoup de spectaculaires aujourd'hui. Et une fois de plus, ce n'est pas une question de qualité. Je prends beaucoup de plaisir aussi à ça. Voilà. Mais j'ai vécu le néocantage, l'arrivée des néocanteurs. J'ai vécu des moments où on était encore vraiment dans une transmission et une volonté très, très sérieuse de transmission, voilà, qui marchait très, très bien. La preuve, c'est que ça a fonctionné pendant très longtemps. Et je vois aussi aujourd'hui je m'en fous, moi, je dis si je me fais des ennemis, la dérive qu'on a de plus en plus à faire du travail de chansonnier, de narration sur l'informatif, sur ce qui se passe autour de nous, mais qui est de moins en moins dans un travail de volonté de re-questionner nos archétypes fondateurs. Voilà, bien sûr. Parce que quelque part, pour moi, la notion de spectaculaire, de spectacle, de contrat, fait que quelque part, on est aussi à la merci du programmateur et à leur orientation. On est rentré dans un marché, on est rentré dans quelque chose qui est de cet ordre-là. Et pour moi, il y a une dérive là qui est extrêmement importante. C'est pour ça que je parle souvent du futur. Pour moi, c'est, c'est un vieux rêve de revoir venir un petit peu des fondamentaux, de les remettre un peu en place sur cette matière. À côté du reste, le reste pour moi n'est pas inintéressant, mais c'est pas du tout le même travail. Hein? Je pense pas. Je crois qu'il est assez costaud pour résister. Hein.
Dans l'esprit des gens, par rapport à ce que je dis là, s'il y a des mauvais de compréhension, c'est comme si on prend une tangente, au début on se sent proche, et puis peu à peu ça s'écarte. Et c'est pas pour rester dans quelque chose de, comment dire, de conservateur par rapport au compte, c'est par rapport à ce que de ces modèles tellement par l'analyse qu'on en perd. Justement,
non, je ne suis pas convaincu non plus. Bon, après, c'est tout un travail, si tu veux, de. Les compteurs à l'époque n'étaient pas dans l'analytique, j'en suis d'accord, mais quelque part, ils avaient des garants, ils avaient une structure qui était consolidée et qui était posée. Aujourd'hui, on ne l'a plus, donc il faut bien la créer, parce que sinon, on arrive à cette dérive aussi qui est complètement intuitive, voilà, mais qui, quelque part, pour moi, l'intuition n'est pas suffisante dans ce type de travail, hein, en tant que tel. Voilà, là, ça demande pour moi aujourd'hui d'avoir un dépassement de cette intuition. Même si quelque part, il faut la protéger, parce que c'est le lieu de l'artistique. Voilà. Mais il y a un endroit de la nourriture qui est vraiment essentiel à travailler aussi. Qu'est-ce qui nourrit l'intuition, voilà.
Les compréhensions sociétaux, très
rationnels.
Voilà.
Ah non, moi, pour moi, l'analytique ne se limite pas à ça. Voilà. Moi, l'analytique, c'est de comprendre aussi la mécanique de ce type de récit au niveau narratif, de comprendre comment les émotions se mettent en place, comment les représentations se construisent, à partir de quoi. Donc, il y a vraiment tout un travail. Il y avait un très bel article, je ne me rappelle plus son nom, mais qui avait travaillé sur le mécano du conte. Il y en a qui doivent le connaître, cet article-là. Et qui avait bien démonté comment même Perrault avait bien compris la mécanique du conte. Comment il s'en est bien servi pour manipuler à sa façon. Oui, pardon.
Enfin, un commentaire d'Anne Marchand. Chaque auditeur reçoit ce qu'il veut d'un conte en fonction de ce qu'il a vécu ou vit à ce moment-là. Les conteurs savent bien qu'un récit doit prendre de la maturité comme un vin de qualité. Je ne dis pas le même conte aujourd'hui comme il y a 50 ans parce que j'ai vécu. Laissons aux auditeurs le temps d'intégrer un mythe, un conte.
Oui, mais là, je suis d'accord avec Anne Marchand là-dessus. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un grand défenseur du fait de la liberté d'écoute et le fait que, quelque part, les contes sont aussi des outils qui laissent des vides pour que l'auditeur puisse remplir. Donc, du coup, c'est évident qu'on remplit avec son expérience. Hein. Ça, je suis d'accord.
Non, on n'entend plus
par
rien.
Par contre, quelque part, il y a, comment dire, la dernière formule que tu m'as donnée, elle a été intéressante. Non, tu ne te rappelles plus. Oui.
Laissons aux auditeurs le temps d'intégrer un mythe, un conte.
Oui, le problème, c'est que quelque part, on est dans cette réaction-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'époque, le conte, on entendait 400 fois dans sa vie ou 500 fois. Et aujourd'hui, avec le système du spectacle, c'est au suivant. Hein? Et donc, quand c'est qu'on prend le temps d'intégrer, hein? C'est ça aussi qui est important. Bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, le conte est vraiment un outil de la redite, de la réécoute constante. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui se c'est pas de la consommation intensive. Quoi. Hein?
Il y a des questions sur
Je pense, parce que vous parlez des adolescents,
qui sont soumis, mais pas peu, hein, débordement pulsionnel, enfin, qui peut être. D'ailleurs, on peut reconnaître l'humanité d'aujourd'hui dans ce personnage qui vient appeler les végétaux, les animaux. Et que ça indique, d'abord, ça permet de reconnaître, de dire je suis débordé par les pulsions. Enfin, l'histoire du morcel, ça me fait. Le morcel.
Excusez-moi d'intervenir comme ça, mais j'entends la notion de cette mécanique et du vide. C'est-à-dire comment quelque part les images chez le compteur, chez les compteurs traditionnels, mais dans les collègues qu'on retrouve d'ailleurs aussi, ouvrent l'image, mais ne la ferme jamais. C'est-à-dire qu'elle laisse l'imaginaire de celui qui est en face continuer le travail. Voilà. Et ça, pour moi, c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, justement, dans le travail scénique, on a beaucoup de compteurs qui travaillent sur des partitions écrites qui déploient les images. C'est-à-dire que quelque part, ils ne laissent plus la part imaginaire de l'auditeur se saisir de l'image, mais ils imposent leurs images. Voilà. Si vous voulez, c'est devenu un lieu d'une expression de l'artiste et plus un lieu. Donc la notion pour moi de description, c'est vraiment pour moi un outil central de la transmission du conte. Cette notion de trop décrire, pas assez décrire. Cet équilibre entre les deux, c'est extrêmement complexe, en fait. À quel moment je ferme l'image ? Ou à quel moment je la laisse ouverte pour qu'il y ait une dynamique qui s'installe.
C'est vrai que, en fait, en comparaison des autres histoires, les enfants, ils regardent beaucoup de Netflix, beaucoup de séries, des animés, et donc c'est aussi un public qui a une attention et une écoute qui est différente. C'est vrai que des fois, il y a cette...
Il y a quelque chose à rééduquer.
Et voilà, c'est
parce que la problématique, c'est qu'on a affaire souvent à des auditeurs, surtout dans le monde enfantin, qui sont surtout des éditeurs qui vont faire du montage entre des images déjà reçues et ce qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas créer leurs images, ils vont superposer des images déjà. Ils ont un répertoire qui est tellement immense derrière l'image toute faite, qu'ils en arrivent à faire des puzzles. Voilà. Et c'est vraiment l'inverse de ce que doit être le conte. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant des fois troubler cette mécanique-là, parce que ça les oblige à redevenir créatifs, c'est-à-dire de recomposer leur propre monde imaginaire, et de ne pas jouer avec le puzzle déjà conçu et intégré. Mais c'est complexe, parce que je suis d'accord, on est dans une génération qui est surnourrie d'images toutes faites. Bien sûr.
Quand tu disais le conte, c'est quelque chose qui s'écoute, qui se réécoute encore une fois. Aujourd'hui, on est saturé, on rejoint les enfants, ils sont saturés de nouveautés. Une chose, ils l'ont vu une fois, dans la cour de récréation, il y a encore un nouveau, autre chose. C'est vrai que cette idée de le remâcher, de réécouter encore et encore la même histoire.
Mais cette expérience, c'est une expérience.